L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles.
Les épîtres du Seigneur aux sept assemblées d'Asie.
Sardes. Nous arrivons à l'épître que le Seigneur adresse à l'assemblée de Sardes. Cette ville n'est mentionnée nulle autre part dans le Nouveau Testament, et l'on ignore par qui l'Évangile y fut porté. Mais comme elle était située dans la contrée où Paul avait annoncé la parole pendant 2 ans, et de laquelle il est dit « tous ceux qui demeuraient en Asie entendirent la parole du Seigneur » acte 19, verset 10, nous pouvons penser que c'est alors que fut établie l'assemblée de Sardes. Voici ce que le Seigneur lui dit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Le Seigneur Jésus se présente ainsi pour montrer qu'il possède la plénitude du Saint-Esprit et toute l'autorité pour le gouvernement de l'assemblée. Toute ressource est en lui. Comme il le fait pour presque toutes les assemblées, le Seigneur commence ainsi. Je connais tes œuvres. Combien cette parole, plusieurs fois répétée, est sérieuse. Les œuvres, ce n'est pas seulement ce que les hommes voient, c'est tout l'ensemble de la vie, même ce qu'il y a de plus intime dans nos pensées et nos sentiments. Le Seigneur connaît tout, et voici le jugement qu'il porte sur Sardes. Tu as le nom de vivre et tu es mort. Cela nous montre, évidemment, que le Seigneur discernait le vrai état intérieur. Il y avait à Sardes une belle forme religieuse, mais Jésus n'y voyait au fond que la mort. Le monde peut dire « Voilà un homme pieux, voilà un jeune homme, une jeune fille sérieuse, parce qu'on assiste à des services religieux, que l'on prie et qu'on lit la parole de Dieu. Mais prenons garde d'avoir seulement un nom de vivre. Le Seigneur, dans sa grâce, donne à l'assemblée de Sardes un sérieux avertissement. « Sois vigilant, dit-il à l'ange, et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir. » Il y avait donc encore quelques personnes à Sardes qui n'étaient pas mortes, qui avaient autre chose qu'un bruit de vivre. Celles-là avaient besoin d'être affermies. Et comment une âme peut-elle être affermie? C'est en veillant pour que rien ne la détourne du Seigneur. Si l'on aime à s'occuper du monde, de ses plaisirs et de ses affaires, si l'on s'associe à lui, on ne pense plus à Christ. On néglige la communion avec Dieu, et on n'a bientôt plus qu'un nom de vivre. Alors le Seigneur peut dire, comme à Sardes, « Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » La conduite que l'on mène, les œuvres que l'on fait, peuvent paraître excellentes aux yeux des hommes. Mais la question est, sont-elles parfaites devant Dieu? C'est devant son Dieu que le Seigneur les apprécie. Si elles sont seulement le résultat d'habitudes religieuses, ou d'une bonne éducation morale, ou encore le fruit de la propre justice, elles ne sont pas parfaites devant Dieu. Elles doivent procéder de la vie de Dieu dans l'âme et être accomplies pour Jésus. L'apôtre Paul disait « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité » de Corinthiens 5, verset 15. Alors la plus petite œuvre, même un verre d'eau froide, donné au nom de Jésus, est agréable à Dieu. Le Seigneur ajoute ensuite une autre exhortation. « Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. » Ce que les chrétiens ont reçu, c'est la grâce de Dieu par l'Évangile. Ce qu'ils ont entendu, c'est la parole de Dieu. C'est là ce qu'il faut garder, et si l'on s'en est écarté, y revenir. Bien des jeunes chrétiens ont reçu avec joie l'Évangile et entendu la parole avec bonheur. Ils prenaient tout leur plaisir dans les choses de Dieu, puis, peu à peu, ils se sont alanguis. D'abord, pleins d'ardeur, ils tombent, faute de vigilance, dans un état d'indifférence et de somnolence qui ressemble à la mort. À eux s'adressent les paroles « Souviens-toi » et « Prends garde » et « Repens-toi ». c'est-à-dire reviens à ce que tu as reçu et entendu. Le Seigneur, après la parole d'avertissement, fait entendre à Sardes une menace bien sérieuse. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Les vrais chrétiens, qui ont la vie de Dieu, attendent que le Seigneur vienne pour les prendre avec lui. Le Seigneur ne vient pas sur eux, mais pour eux, et ils sont heureux en l'attendant. Mais ceux qui n'ont que le nom de vivre seront traités comme le monde, malgré leur profession religieuse. Ils seront enveloppés dans le jugement du monde, à l'égard duquel l'apôtre dit « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit ». Quand ils diront « Paix et sûreté », alors une subite destruction viendra sur eux. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. Quel moment terrible! S'être endormi dans une fausse sécurité et se réveiller pour le jugement. Le Seigneur nous en préserve. Mais à Sardes, au milieu de l'état général de mort, il y avait encore un résidu. Le Seigneur Jésus aime à reconnaître ceux qui en font partie. C'est un rafraîchissement pour le cœur du Sauveur de voir des âmes qui lui sont attachées. Lisons ce qui caractérise ces âmes fidèles. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Quelques noms, cela veut dire des personnes que le Seigneur connaît spécialement et qu'il compte pour ainsi dire. Le Seigneur dit de ses fidèles, ils n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire leur conduite a été pure et pour ma gloire. Les autres avaient souillé leurs vêtements en s'associant au monde et en marchant comme le monde. Prenons garde, si nous sommes chrétiens, de ne pas souiller nos vêtements. L'apôtre Jacques nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. Jacques 1, verset 27. Quand le cœur est attaché à Christ, on se tient loin du monde. Représentons-nous une grande et large route boueuse, où court et s'agite une foule de gens. Ils sont tous sales, leurs vêtements sont souillés de boue. Mais il y en a quelques-uns qui se sont dit, « Ne pouvons-nous pas trouver un chemin propre ?» Et ils découvrent un petit sentier étroit mais sec, où ils peuvent marcher sans se salir, et ils y vont. Ne serait-il pas stupide de redescendre sur la route boueuse, sous prétexte qu'on y est plus au large ? Il y a dans le monde un sentier étroit, mais saint et pur, c'est celui où Jésus a marché. En suivant le Sauveur, on ne souille pas ses vêtements. La vie alors est sainte et Jésus nous approuve. Écoutons ce qu'il promet à ceux qui n'auront pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Elle contraste avec ceux qui ont souillé leurs vêtements et qui n'auront point de part avec lui, mais seront jugés avec le monde. Les autres marcheront avec le Seigneur. Ils formeront son brillant cortège, revêtus de sainteté et de justice, vêtements dignes de sa glorieuse et pure personne. Mais on ne vit pas dans un monde méchant et corrompu, sans avoir à lutter pour ne pas souiller ses vêtements. Le monde et Satan présentent, surtout à ceux qui sont jeunes, toutes sortes de séductions, de plaisirs et d'attraits, pour les attirer dans la boue et les souillures. Il faut résister. C'est pour cela que le Seigneur ajoute, « Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Quand donc on aura vaincu par la vigilance, la parole de Dieu, la prière, et par-dessus tout la foi et la confiance dans le Seigneur, lui-même nous introduira dans cette région heureuse, le ciel, où il n'y a point de souillure possible. Le péché n'y entre pas, rien n'altérera la pureté et la fraîcheur des vêtements blancs dont nous serons revêtus. Quand le moment sera venu où le Seigneur effacera du livre de vie, c'est-à-dire du registre de la profession religieuse, les noms de ceux qui avaient seulement le nom de vivre, il y laissera les noms de ceux qui auront remporté la victoire. Ils vivront éternellement. et ce bien-aimé Sauveur prendra plaisir à confesser leur nom devant son Père et ses anges. Publiquement, il dira : ceux-là que vous voyez revêtus de robes blanches, ils sont à moi. Quelle perspective brillante ! Ne désirez-vous pas faire partie de cette troupe glorieuse et bienheureuse ? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous avons à considérer maintenant à quelle époque de l'histoire de l'Église correspond l'état de l'assemblée de Sardes. Nous avons vu que l'assemblée de Thyatire représentait prophétiquement le romanisme, ce grand système religieux corrompu et corrupteur, et que ce qui caractérise ce système est la position de suprématie qu'un homme, le pape, prend comme chef de l'Église. Ensuite, l'idolâtrie remplaçant le culte de Dieu en esprit et en vérité. Le salut par les œuvres mis à la place du salut par la foi. Et enfin, la prétention du clergé d'enseigner et d'expliquer seul les Écritures, avec défense aux laïcs de la lyre, au moins sans la permission spéciale des conducteurs spirituels. De là, pour le peuple surtout, les ténèbres qui régnèrent dans les âmes durant le Moyen Âge. La Bible, la lumière divine, était cachée. Mais le Seigneur était là, le chef suprême de l'Église, ayant les sept étoiles, toute l'autorité pour gouverner, et les sept esprits de Dieu, la lumière parfaite de la connaissance pour la répandre. Au temps fixé, le Seigneur agit dans sa grâce et fit briller la lumière au sein des épaisses ténèbres du papisme. Cette époque, qui fut pour l'Église comme un nouveau point de départ, se nomme la Réformation. Même aux temps les plus sombres, le Seigneur avait toujours eu des âmes ou même de petites congrégations qui lui étaient fidèles. Des hommes tels que Wycliffe en Angleterre, Jean Hus en Bohême, éclairés de Dieu pour voir les erreurs du romanisme, les dénoncèrent, mais ils n'étaient que comme des lueurs qui précèdent le jour. Celui que le Seigneur choisit pour être son grand champion est Martin Luther, dont nous aurons à parler plus longuement dans la suite. Nous ne devons jamais exalter un homme quel qu'il soit. Le Seigneur seul est digne de l'être, mais nous pouvons rendre grâces à Dieu de ce qu'il a suscité, doué et soutenu des hommes comme Paul, Pierre et Jean pour faire connaître la vérité, et des hommes tels que Luther et d'autres pour la remettre en évidence quand elle a été oubliée et méconnue. La première chose que Dieu fit par le moyen de son serviteur fut de montrer que l'autorité n'est ni dans le pape, ni dans les conciles, ni dans les docteurs, ni dans l'Église, mais uniquement dans la parole de Dieu, seule infaillible pour faire connaître la vérité. La Bible fut donc tirée de la poussière et de l'obscurité où le pape et les prêtres l'avaient laissée enfouie, et présentée à tous comme le livre de Dieu, où chacun peut et doit chercher la lumière. C'est ce livre divin qui avait déjà éclairé et soutenu Wycliffe et Hus. C'est lui qui, partout où Dieu suscita des réformateurs, devint pour eux l'autorité à laquelle ils en appelaient pour justifier leurs enseignements. Et ce livre était pour tous. Aussi fut-il bientôt répandu à profusion par le moyen de l'imprimerie, inventée peu d'années avant la Réformation. Ainsi chacun put apprendre directement de Dieu et put contrôler par cette parole de vie ce qui lui était présenté. Ce fut un coup terrible porté au papisme et à la papauté. On vit bientôt la vanité des prétentions du clergé et l'erreur de ses enseignements. La Bible renversait tout cet échafaudage de clergé, de cérémonie, d'idolâtrie, de salut par les œuvres, de pénitence, de pèlerinage, etc., car elle ne dit rien de ces choses ou les condamne formellement. C'est là la grande œuvre que Dieu a faite par le moyen de ses serviteurs, les réformateurs, remettre la Bible en lumière et ainsi renverser les prétentions et les erreurs de Rome. La grande vérité que Luther proclama et qui lui était particulièrement chère est celle de la justification du pécheur devant Dieu par la foi au sacrifice de Jésus, mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. C'est en cela qu'il avait trouvé la paix pour son âme profondément troublée, que toutes ses pénitences et ses œuvres n'avaient pu calmer. De ce moment date ce que l'on nomme le protestantisme, qu'il ne faut pas confondre avec la Réformation. Cette dernière est l'œuvre par laquelle la Bible fut remise en lumière et honneur, où la vraie doctrine du salut fut proclamée, et où les prétentions de Rome furent combattues et ses erreurs dénoncées. Le protestantisme est l'état de choses qui en résulta dans l'Église. La chrétienté en Occident fut dès lors séparée en deux grandes sections, le catholicisme romain, comprenant ceux qui restèrent attachés au pape et reconnurent son autorité, et le protestantisme, comprenant tous ceux qui rejetèrent Rome et ses prétentions et ne reconnurent d'autre autorité que la Bible, au moins nominalement. C'est là ce que le Seigneur considère dans l'assemblée de Sardes, non pas la Réformation qui est son œuvre, mais l'état qui en est résulté sous l'action des hommes. Voilà pourquoi il a à dire ces tristes paroles « Tu as le nom de vivre et tu es mort, et je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. » En effet, d'une manière générale, dans les églises nommées protestantes, soit luthériennes ou réformées, ou anglicanes ou autres, on en vint à n'avoir plus qu'une profession extérieure. Les confessions de foi étaient orthodoxes, c'est-à-dire selon la saine doctrine, au moins en général, mais laissant les âmes dans l'indifférence, le formalisme et la mort. De plus, ces diverses églises, pour la plupart, furent assujetties à l'État, c'est-à-dire au gouvernement humain, de sorte qu'elles furent mêlées au monde. On voit combien l'avertissement du Seigneur était de saison. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Avertissement semblable à celui que le Seigneur avait déjà fait entendre à Éphèse, et ayant pour but de rappeler les âmes à la Bible et à une foi vivante. Au milieu de cet état de langueur et de mort, il y avait cependant toujours des personnes qui ne se contentaient pas d'une vaine forme de piété, mais qui saisissaient par la foi et gardaient dans leur cœur les précieuses vérités du salut. Ce sont elles dont le Seigneur dit « Tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ». Outre ces personnes isolées, il y eut aussi à diverses reprises dans le protestantisme des réveils plus ou moins étendus. Mais ce n'est pas le moment d'en parler, ni d'entrer davantage dans le détail de ce qui constitue le protestantisme. Il suffit que nous ayons vu, d'une manière générale, à quoi correspond ce qui est dit de l'assemblée de Sardes. De même que Thyatire ou le catholicisme romain, Sardes ou le protestantisme continue jusqu'à la venue du Seigneur. Alors, toutes deux tomberont sous le jugement. Que le Seigneur nous donne de tenir ferme cette précieuse parole de Dieu, qui maintenant n'est plus cachée, mais qui est accessible à tous et qui est entre nos mains. Il nous accorde de marcher à sa lumière et ainsi de garder nos vêtements, c'est-à-dire notre vie, notre conduite non souillée par le contact avec le monde. Philadelphie. Nous arrivons maintenant à l'épître adressée par le Seigneur à la sixième assemblée, celle de Philadelphie. Elle n'est mentionnée nulle autre part dans le Nouveau Testament, et l'on ignore par qui elle fut établie. Elle n'a pas fait grand bruit dans le monde, mais les paroles du Seigneur nous font connaître sa fidélité et comment il l'apprécie. Écoutons ce qu'il dit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie écrit. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous pouvons remarquer d'abord que le Seigneur n'adresse aucun reproche à l'ange de cette assemblée. C'est comme à l'assemblée de Smyrne. Cette dernière venait après l'assemblée d'Éphèse, qui avait abandonné son premier amour. Elle passait par la persécution et demeurait ferme, et le Seigneur l'exhorte à ne rien craindre et lui fait des promesses de vie. De même, Philadelphie vient après Sardes, qui avait la réputation de vivre tout en étant dans la mort. Philadelphie avait peu de force, mais le Seigneur l'aimait parce qu'elle gardait sa parole et son nom. Ainsi, ce qui plaît au Seigneur, c'est un cœur ferme dans l'épreuve et fidèle dans la faiblesse. En écrivant à l'assemblée de Philadelphie, le Seigneur Jésus se présente d'un côté comme étant le saint et le véritable. Ce sont des titres qui appartiennent à Dieu, comme nous le voyons en plusieurs passages. Ésaïe 40, verset 25.
À qui donc me comparerez-vous et serai-je égalé, dit le saint.
Ésaïe 57, verset 15.
Car ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l'éternité, et duquel le nom est saint. J'habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu d'un esprit contrit, pour revivifier l'esprit de ceux qui sont contrits, et pour revivifier le cœur de ceux qui sont abattus.
1 Jean 2, verset 20.
Et vous, vous avez l'onction de la part du saint, et vous connaissez toutes choses.
Et 1 Jean 5, verset 20.
Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Mais Jésus est Dieu, et c'est pourquoi il prend ses titres. Le saint veut dire celui qui est absolument séparé de tout mal. Jésus est saint en lui-même. Et il a manifesté ce caractère sur la terre dans tout ce qu'il fait. Le véritable signifie celui qui est vrai en toute chose, dans sa personne, se faisant connaître comme le vrai Fils de Dieu, dans ses paroles et ses actes, faisant connaître Dieu comme amour et lumière, et révélant le Père. Qu'il est précieux de connaître cette glorieuse et adorable personne, séparée du mal et qui nous en sépare, qui est vrai, en sorte que nous pouvons mettre une entière confiance en ce qu'elle dit, et par elle connaître la vérité. Mais d'un autre côté, comme homme, Jésus était la postérité de David. Apocalypse 22, verset 16.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin.
Il a donc la clé de David, c'est-à-dire l'autorité absolue pour gouverner, comme étant le Christ promis. Si nous lisons au chapitre 22 d'Ésaïe, du verset 15 au verset 23, nous y voyons qu'un certain Shebna était revêtu d'une charge dans la maison royale à Jérusalem. Mais n'en ayant usé que pour satisfaire son orgueil et pour se glorifier dans sa force et ses richesses, le prophète Ésaïe lui fut envoyé de la part de l'Éternel pour lui déclarer qu'il périrait misérablement et que sa charge lui serait ôtée et donnée à Éliakim, serviteur de l'Éternel. Et il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je mettrai ton intendance en sa main et il sera pour père aux habitants de Jérusalem et à la maison de Juda. Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, et personne ne fermera, et il fermera, et personne n'ouvrira. Éliakim était donc revêtu de l'autorité pour administrer la maison de David, pour admettre et recevoir dans la faveur et dans le service du roi ceux qu'il jugeait dignes, pour exclure les autres, et cela sans appel. Il était ainsi le type du Seigneur Jésus. Au premier chapitre de l'Apocalypse, le Seigneur dit de lui-même « Je tiens les clés de la mort et du Hadès », c'est-à-dire qu'il a le pouvoir souverain sur la mort et le lieu invisible où vont les âmes séparées du corps. Il a la puissance de ressusciter les morts. Apocalypse 1:18.
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du Hadès.
À Pierre, il avait donné les clés du royaume des cieux, Matthieu 16, verset 19, c'est-à-dire l'autorité d'ouvrir l'entrée du royaume aux Juifs d'abord, puis aux gentils par la prédication de l'Évangile, et c'est ce que Pierre a fait, comme nous le lisons au chapitre 2 et 10 des Actes des Apôtres.
Matthieu 16, verset 19, « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
J'ai cité ces divers passages pour bien faire comprendre que les clés désignent l'autorité d'introduire ou d'exclure. Le Seigneur Jésus se présente à l'assemblée de Philadelphie et à nous comme ayant cette autorité souveraine. Il ouvre la porte de la bénédiction, de la foi, du salut aux âmes, et personne ne peut l'empêcher de bénir et de sauver. Acte 14, verset 27.
Et étant arrivé et ayant réuni l'assemblée, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.
Tous les efforts de Satan et du monde sont impuissants pour arrêter le cours des bénédictions qu'il répand. Nous le voyons dans les Actes. Les persécutions que subirent les chrétiens et les apôtres ne firent que répandre l'Évangile. Lisez en particulier Actes chapitre 8, versets 1 à 8.
Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem, et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres. Et des hommes pieux emportèrent Étienne pour l'ensevelir, et menèrent un grand deuil sur lui. Or, Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons, et traînant hommes et femmes, il les livrait pour être jetés en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la parole. Et Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et les foules, d'un commun accord, étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits immondes, criant à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville-là.
Actes chapitre 11, versets 19 à 21.
Ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne si ce n'est à des Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des Cypriotes et des Cyrénéens, qui, étant venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre ayant cru se tournèrent vers le Seigneur. Le Seigneur ouvre la porte à ses serviteurs pour exercer leur ministère, et Satan ne pouvait la fermer. C'est ainsi que Paul disait « Je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. » 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9. Combien cela est précieux pour les serviteurs du Seigneur, et comme cela doit nous encourager à prier pour que Dieu leur ouvre la porte pour annoncer la parole. Colossiens 4, verset 3. Priant en même temps aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ, mystère pour lequel aussi je suis lié.
Il me semble voir une grande porte ouverte, la porte du salut, et les prédicateurs de l'Évangile appelant les âmes à entrer, et tout un flot entrant. Et puis, Satan et le monde, les incrédules, les méchants, faisant tous leurs efforts pour pousser cette porte et la fermer, mais sans succès. La main du Seigneur, invisible pour eux, la tient ferme, et elle ne bouge point. Mais d'un autre côté, s'il ferme, qui ouvrira? Ah, cela est terrible, il disait aux Juifs. Dès que le maître de la maison aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que répondant il vous dira « Je ne vous connais pas ». Quelle puissance humaine pourra ouvrir? Aucune. On sera dehors, hors de la bénédiction et de la joie. Luc 13, versets 25 à 29.
Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et que répondant il vous dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes », alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il dira « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Là seront les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetez dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident et du Nord et du Midi, et ils s'assieront dans le royaume de Dieu. »
Et aux vierges folles, que leur arrivera-t-il? La porte sera fermée, et il dira « Je ne vous connais pas ». La porte de la grâce aura été fermée et personne n'ouvrira. Ce sera le sort réservé à ceux qui n'auront pas voulu écouter au temps convenable. C'est ce qui va bientôt arriver au monde incrédule. Combien cela est sérieux. Demandons au Seigneur que bien des portes soient ouvertes à ses serviteurs et que bien des âmes soient sauvées. Le Seigneur Jésus s'était présenté à l'assemblée de Philadelphie, le Saint, le Véritable, celui qui a l'autorité absolue pour ouvrir et fermer. Écoutons maintenant ce qu'il est dit aux saints qui composaient cette assemblée. La première chose qu'il déclare, c'est « Je connais tes œuvres », mais il ne dit pas quelles sont ses œuvres. Seulement, quand nous lisons la suite, nous trouvons que le Seigneur dit « Moi, je t'ai aimé ». Nous pouvons en conclure que c'était des œuvres qui lui étaient agréables, provenant de cœurs qui lui étaient dévoués. Il n'est pas nécessaire que les œuvres que l'on fait soient grandes et attirent l'attention et l'admiration des hommes. Non, des œuvres humbles, sans apparence, accomplies chaque jour dans les diverses positions de la vie, mais ayant pour motif l'amour du Seigneur, voilà celles dont il peut dire avec satisfaction « Je les connais ». Et ces œuvres-là, le plus jeune et le moindre des croyants peut les accomplir. Il est bien évident que les saints à Philadelphie ne brillaient pas par l'apparence aux yeux du monde. « Tu as peu de force, leur dit le Seigneur. » Mais cet état de faiblesse attirait la sympathie de Jésus. Dans la faiblesse et l'impuissance des siens, il aime à montrer sa force à lui. Le bienheureux apôtre Paul savait cela. Il disait « Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi, car quand je suis faible, alors je suis fort. » 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Les Philadelphiens avaient peu de force, ils étaient peu nombreux, pauvres peut-être, sans talent, et dans l'assemblée, il n'y avait peut-être que peu de dons marquants, mais ils avaient l'essentiel sans lequel tout le reste n'est rien. Ils avaient ce que chacun de nous individuellement et ce que chaque assemblée nous devrions avoir. Et quoi donc? Tu as gardé ma parole, dit le Seigneur, et tu n'as pas renié mon nom. Voilà ce que Jésus voyait dans leur vie et dans leur cœur, et ce qu'il appréciait par-dessus tout. Leur faiblesse ne les avait pas empêchés de rester attachés à la parole et à la personne de Christ, malgré les efforts de Satan et les persécutions du monde. Nous aussi, nous avons la parole, et nous avons appris à connaître le nom précieux de Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu. Mais il faut garder la parole, la garder dans son cœur, et pas seulement la voir dans sa maison ou dans son intelligence. Garder veut dire qu'on l'estime comme une chose de haute valeur, et il ne faut pas non plus renier le nom de Jésus. Au temps de l'assemblée de Philadelphie, les souffrances causées par les persécutions faisait que parfois ceux qui avaient fait profession d'être chrétiens reniaient Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas à la mort ou à la prison qu'on est exposé si l'on confesse Christ, mais on est exposé aux moqueries, au dédain, au mépris de ses compagnons, de ses amis qui sont encore du monde, et c'est souvent bien difficile de le supporter. Il arrive plus d'une fois qu'on voudrait servir le Seigneur, mais on craint l'opprobre et l'on a honte de lui. Pensons alors à l'assemblée de Philadelphie, qui n'a pas renié le nom du Sauveur qu'elle aimait, et demandons à Dieu la force nécessaire afin d'être en état de nous déclarer franchement pour Christ. Et voyez ce que le Seigneur dit ensuite à l'assemblée de Philadelphie. Puisqu'elle a peu de force, et que cependant elle est fidèle, le Seigneur ajoute, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est lui-même qui ouvre un chemin à ceux qui sont faibles, et personne, Satan ni le monde, ne peuvent les empêcher d'y marcher en paix et en liberté. » Un faible chrétien pourrait dire, « Comment pourrais-je être fidèle et servir le Seigneur, moi qui suis si ignorant et chétif? On va se moquer de moi, me mettre à l'écart si je confesse le Seigneur. » N'aie pas peur, cher ami, le Seigneur qui sait que tu n'as pas de force sera avec toi et t'ouvrira le chemin. À côté de l'assemblée à Philadelphie, aimée et approuvée du Seigneur, il y avait une autre congrégation, un autre ensemble d'hommes réunis sous les ordres d'un autre maître et qui avaient des prétentions religieuses. Ils sont appelés la synagogue ou la congrégation de Satan. Quel terrible nom! Qu'étaient-ils ces hommes? Ce n'étaient pas des païens. Non, ils se disaient juifs, c'est-à-dire se vantaient de croire en un seul Dieu, d'avoir la parole de Dieu, une loi et des ordonnances données de Dieu, d'être le peuple de Dieu, et avaient une grande apparence religieuse. Mais ils mentaient. Ils n'étaient plus le peuple de Dieu, car ils avaient rejeté le Christ, le Fils de Dieu, Jésus, annoncé par les prophètes, et c'est ainsi que, malgré leur vanterie, ils étaient la synagogue de Satan. Toutes leurs prétentions religieuses n'étaient que mensonges aux yeux du Seigneur. Il en est de même aujourd'hui. Se dire chrétien, parce que l'on a une certaine forme religieuse, qu'on a été baptisé, et que l'on fait ainsi partie de l'Église professante, n'est pas selon la vérité, il faut avoir reçu Christ dans son cœur. Un temps viendra où toutes les fausses prétentions seront jugées et où les vrais chrétiens seront reconnus, afin que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé, disait le Seigneur à son Père en parlant de ses disciples. Et ici il déclare de ceux qui se disaient juifs et qui méprisaient les chrétiens, ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Qu'il est précieux pour le cœur de savoir que le Père nous aime et que Jésus nous aime. C'est maintenant un secret entre lui et nous. Le monde n'en sait rien. Mais quand Jésus viendra, que nous serons manifestés avec lui en gloire, le monde entier saura combien nous avons été aimés. Il est dit de Jésus que tout genou fléchira devant lui. Nous serons avec lui dans la même gloire. Et c'est ainsi que le monde reconnaîtra que les pauvres saints, si méconnus et méprisés maintenant, étaient vraiment dignes d'honneur. Alors se réalisera cette parole, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds. Le Seigneur signale ensuite un autre caractère de l'assemblée de Philadelphie. Tu as gardé la parole de ma patience, dit-il. Que signifient ces paroles, ma patience, la patience de Jésus? Essayons de le comprendre. Que désire le Seigneur? C'est d'avoir avec lui ses bien-aimés dans la gloire. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Jean 17, verset 24. Voilà ses paroles. Mais il attend avec patience le moment que Dieu a fixé pour cela. Et que désirent les saints? D'être avec leur Sauveur, loin du monde et du péché. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Mais comme Jésus attend, ils attendent aussi avec patience. C'est ainsi qu'ils ont la même pensée que Jésus et qu'ils gardent la parole de sa patience, c'est-à-dire qu'ils attendent sa venue. À ceux qui gardent la parole de la patience, le Seigneur fait une promesse. Un temps solennel approche, une épreuve terrible va venir sur la terre habitée tout entière. Le Seigneur ne nous en dit pas la nature, mais ce seront des calamités effrayantes qui fondront sur ceux qui habitent sur la terre, autrement dit ceux dont le cœur, les pensées, les habitudes sont dans les choses d'ici-bas, qui sont citoyens de la terre et n'attendent de joie que celle qui s'y trouve. Mais ceux qui gardent la parole de sa patience sont du ciel, d'où ils attendent le Seigneur. Le Seigneur tarde, pourrait-il penser, et il semble avoir l'agitation du monde, les bruits de guerre, de révolution et d'anarchie, que de terribles événements vont avoir lieu. C'est vrai, mais les saints ne seront plus sur la terre, ils seront avec le Seigneur. Quel bonheur de pouvoir s'appuyer sur cette précieuse promesse, « Je te garderai ». Et les paroles suivantes nous font bien voir que c'est en venant prendre les saints près de lui qu'il les préservera de toutes ces calamités à venir. Il dit « Je viens bientôt ». C'est ce que l'apôtre rappelait aussi aux Thessaloniciens qui avaient été convertis pour attendre des cieux Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et c'est bientôt. Chaque jour nous rapproche de cet heureux moment. Mais à cela, le Seigneur ajoute une exhortation. « Tiens ferme ce que tu as, dit-il, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a donc un danger, et des ennemis sont là, tout prêts à ravir aux fidèles ce qu'ils ont de précieux, ce qui fait leur ornement et leur gloire. Ce que tu as, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que le Seigneur nous a donné, sa parole, sa connaissance, son amour, la jouissance de ce qu'il est, l'assurance du salut, de notre relation d'enfants auprès du Père, l'espérance de sa venue, toutes les saintes vérités de la parole. Voilà ce qu'il faut tenir ferme, comme la chose la plus précieuse, et que Satan voudrait bien nous enlever. Si vous aviez un objet de valeur qui viendrait de votre mère, combien n'y tiendriez-vous pas? Si quelqu'un voulait vous le ravir, avec quelle énergie vous le retiendriez? Supposez que quelqu'un voulût vous persuader qu'après tout, cela n'a pas tant de valeur et se moqua de ce que vous y attachez un si grand prix, avec quelle indignation vous le repousseriez? Eh bien, ce que le Seigneur nous a donné vaut infiniment plus que tous les trésors de l'univers. Tenons-le donc ferme, en dépit de tous les efforts et les ruses du diable. La couronne, c'est ce que le vrai chrétien a déjà, c'est Christ qui est sa gloire et sa couronne aux yeux de Dieu, et en quoi il peut se glorifier. Et cette couronne-là que le monde méprise ou méconnaît, elle brillera éternellement sur le front du racheté. Ici-bas, tenons donc ferme pour Christ, et ne permettons à personne de nous ôter la gloire de le confesser et de le servir. Après cela, viennent comme toujours les promesses que le Seigneur fait aux vainqueurs, à ceux qui ont tenu ferme ce qu'ils avaient. Et il faut bien nous souvenir que, quoique tous ceux qui croient soient sauvés, il y aura une rémunération et qu'une récompense spéciale sera donnée à ceux qui auront été fidèles au milieu des difficultés. Celui donc qui vaincra sera établi comme une colonne dans le temple de mon Dieu, dit Jésus. La colonne est un emblème de stabilité, de force, en même temps qu'un ornement. Ceux qui, sur la terre, ont peu de force, brilleront dans le ciel comme des monuments impérissables de la grâce. Rien ne pourra plus les ébranler. Ils orneront le sanctuaire céleste, le temple du Dieu du Seigneur Jésus-Christ, et ce sera pour l'éternité. Il ne sortira plus jamais dehors. En second lieu, le Seigneur dit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, en signe qu'il appartient au Dieu du Seigneur Jésus-Christ. C'est un sceau indélébile. Nul ne peut effacer ce que Jésus a écrit sur eux, et il est heureux de les amener à son Dieu. » Le Seigneur ajoute « Et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. » Ils appartiennent à cette cité décrite au chapitre 21 de l'Apocalypse, cité céleste et divine dans son origine. Ils en sont les parties constituantes et non pas simplement les habitants, car la cité, c'est l'épouse, la femme de l'agneau, l'assemblée. Et enfin, le Seigneur dit, et mon nouveau nom, son nom comme Rédempteur ressuscité et glorifié. Voilà ce qui attend le fidèle vainqueur, être à jamais en la présence de Dieu, dans le temple où brille sa gloire, comme appartenant à Dieu, au ciel et à Christ, et associé à son précieux Sauveur dans cette position de félicité et de gloire. Ne vaut-il pas la peine de servir le Seigneur et de souffrir pour lui pendant un peu de temps ici-bas, en attendant un avenir si beau? Laodicée. Nous voici arrivés à Laodicée, la dernière des sept assemblées auxquelles le Seigneur Jésus s'adresse. Elle représente le dernier état de l'Église professante sur la terre, et c'est un triste état. Le déclin avait commencé quand l'Église abandonna son premier amour. Le Seigneur permit les persécutions pour ramener à lui le cœur de l'Église, mais ensuite elle s'allia au monde et laissa s'introduire dans son sein des enseignements pernicieux qui finalement la conduisirent au système d'idolâtrie et de corruption du papisme. Du milieu de cet état de choses, le Seigneur, dans sa grâce, suscita les réformateurs, et un grand et magnifique réveil eut lieu, qui, hélas, fut suivi d'un état de mort. Alors Dieu, par ses serviteurs, fit rappeler les vérités oubliées ou méconnues. Les principales furent celles relatives à l'Église comme corps de Christ uni à son chef, Christ, dans le ciel, l'habitation, c'est-à-dire la présence et l'action du Saint-Esprit dans les croyants individuellement et dans l'Église, et enfin l'attente de Christ venant chercher les siens avant le jugement du monde. Des âmes, en bien des lieux, réveillées par le cri de minuit « Voici l'Époux vient », s'attachèrent comme tout de nouveau à la personne adorable du Seigneur et à sa parole. Mais à quoi tout va-t-il aboutir? La parole de Dieu nous montre que tout ce qui était confié à l'homme, l'homme ne sait pas le conserver et le gâte. Il en est ainsi de l'Église ici-bas. Elle devait être le témoin fidèle du Seigneur, mais les épîtres du Seigneur et l'histoire de l'Église sur la terre montrent qu'elle a manqué à sa mission. Et ce qui est dit à l'assemblée de Laodicée nous apprend que le Seigneur est obligé enfin de la vomir de sa bouche, c'est-à-dire de la rejeter entièrement. L'assemblée des Laodicéens est mentionnée à la fin de l'épître aux Colossiens, chapitre 4, versets 13 à 16.
« Car je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Hiérapolis. » Luc, le médecin bien-aimé, vous salue et Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'assemblée qui se réunit dans sa maison. Et quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens, et vous aussi lisez celle qui viendra de Laodicée.
Nous voyons là que ces derniers devaient faire passer à Laodicée la lettre qu'ils avaient reçue de Paul, et que les Laodicéens, à leur tour, devaient envoyer à Colosse une lettre qui, probablement n'est autre que l'épître aux Éphésiens. Nous apprenons ainsi que les chrétiens de Laodicée avaient été bien instruits dans la vérité par ces deux belles épîtres, où la gloire de la personne de Christ est si admirablement décrite, où les privilèges glorieux de l'Église sont développés, et où tout ce qui peut lui attacher le cœur nous est présenté. Mais il faut toujours nous rappeler que la connaissance même des vérités les plus précieuses et les plus élevés, si elle est seule, conduit à l'orgueil. 1 Corinthiens 8, versets 1 à 3.
Pour ce qui est des choses sacrifiées aux idoles, nous savons, car nous avons tous de la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui.
1 Corinthiens 13, verset 2.
Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance, et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
La vraie connaissance est celle qui réside dans le cœur et qui l'attache à Dieu et à Jésus. C'est ce qui manquait à Laodicée qui se croyait riche et se vantait de s'être enrichi, et n'avait qu'indifférence pour Jésus. Hélas, on ne voit que trop la même chose de nos jours. On n'est plus satisfait de ce que l'on a et de ce que l'on fait que du Seigneur. Voyons d'abord comment le Seigneur se présente à l'assemblée de Laodicée, et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. L'Amen veut dire que toutes les promesses de Dieu sont accomplies et s'accompliront en lui et par lui, malgré la chute et la ruine de l'Église.
2 Corinthiens 1, verset 20. Mais il y a oui en lui, car autant il y a de promesses de Dieu en lui et le oui et en lui l'Amen à la gloire de Dieu par nous.
Le témoin fidèle et véritable, non seulement il l'a été sur la terre, mais il l'est et le demeure toujours. Il se montre fidèle et véritable pour glorifier Dieu quand l'homme, dans l'Église, manque à l'être et se glorifie lui-même. Et enfin, le Seigneur est le commencement de la création de Dieu. C'est par lui que Dieu a fait toutes choses. Il est l'origine et la source de tout ce qui existe. Colossiens 1, versets 16 et 17.
Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui.
Hébreux 1, verset 2.
À la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes.
Jean 1, verset 3.
Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait.
Mais dans ce qui est dit à Laodicée, la création de Dieu n'est pas la première création, celle dont les œuvres visibles nous entourent et dont il est parlé dans le premier chapitre de la Genèse. Cette création-là a été gâtée et ruinée par le péché de l'homme, et sa fin est d'être brûlée. 2 Pierre 3, versets 7, 10 et 12.
Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et, dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. Attendant et hâtant la venue du jour de Dieu à cause duquel les cieux en feu seront dissous, et les éléments embrasés se fondront.
Mais il y a une autre création, une création qui ne peut pas être souillée par le péché, et où Satan ni la mort n'ont accès. C'est d'elle que Dieu parle quand il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21, verset 5. Elle a commencé avec Christ et a été manifestée dans sa résurrection d'entre les morts, faisant connaître une vie en dehors du péché et de la puissance de la mort et de Satan. Nous y avons part quand nous croyons au Seigneur, car si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et cette nouvelle création aura sa pleine réalisation et brillera de toute sa glorieuse splendeur quand le ciel et la terre d'à présent auront disparu et qu'il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle. Apocalypse 21, verset 1.
Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus.
L'Église aurait dû montrer au monde le caractère de cette nouvelle création, céleste, divine, en dehors du péché. Elle ne l'a pas fait. Elle est retournée au monde et aux choses de la première création, dont elle se glorifie. Alors le Seigneur se présente et dit: bien que l'Église ait manqué, la nouvelle création n'en subsiste pas moins. Elle est en moi qui en suis la source et l'origine. Combien cela est beau et consolant et précieux de voir et d'avoir tout en Jésus dans une réalité, une vérité, une beauté et une fraîcheur inaltérables, tandis que du côté de l'homme, tout manque. Ah, attachons-nous à lui de tout notre cœur. Examinons maintenant ce que le Seigneur dit à l'assemblée de Laodicée. Il commence, comme toujours, par cette déclaration solennelle « Je connais tes œuvres », c'est-à-dire non seulement ta manière de vivre, ce qui paraît au dehors, mais ton état intérieur. Et voici ce que le Seigneur voit. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Être froid pour Christ est l'état de l'homme naturel, incrédule, dont le cœur de glace ou de marbre n'a pas été touché par la grâce et l'amour du Seigneur. Être bouillant, c'est l'état d'un cœur qui, par l'Esprit Saint, connaît et goûte l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et qui, par conséquent, est plein de ferveur, n'estime rien en dehors de Christ et lui est tout dévoué. Voyez Philippiens 3, versets 7 à 12.
Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte, et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si, en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Non que j'aie déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection. Mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ.
Laodicée était tiède. Bien qu'il y eût des connaissances religieuses dont on était satisfait, la personne de Christ n'occupait pas le cœur et les pensées. Elle laissait l'âme indifférente. Or nous voyons que le Seigneur préfère à cette tiédeur, au manque d'amour pour lui, même la froideur et l'incrédulité. En effet, l'incrédule ne connaît pas Christ, et son cœur peut être saisi par la grâce. L'amour de Dieu peut fondre le glaçon de son cœur. Il y a une indifférence à l'égard de Christ qui provient de l'incrédulité. On ne le connaît pas, et l'on ne se soucie pas de lui. Mais prétendre avoir la foi et la connaissance, et professer être religieux, et cependant être indifférent à l'égard du Seigneur, sans dévouement pour lui, est une chose qui lui est odieuse. C'est de l'hypocrisie. Il ne reste que ce jugement terrible, être vomi, rejeté comme une chose nauséabonde. Il ne s'agit pas ici d'un vrai chrétien, mais de l'Église en général, quand elle est tombée dans cet état de tiédeur. Toutefois, nous devons demander au Seigneur qu'il nous garde individuellement de toute tiédeur à son égard. Quelle était la cause de cet état? C'était la satisfaction de soi-même. Quand on est satisfait de ce que l'on est et de ce que l'on a par soi-même, Christ devient indifférent au cœur, il est laissé dehors. Le Seigneur continue, « Parce que tu dis je suis riche, et je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. » Les richesses dont se vante Laodicée ne sont pas les richesses temporelles seulement, ni essentiellement. On le voit par le conseil que lui donne le Seigneur. Mais c'est une position dans le monde, la science, les connaissances et une activité religieuse, les lumières de l'intelligence. Laodicée se vante d'avoir tout cela et ainsi d'être riche, bien plus, de s'être acquis toutes ces choses par son travail. Dès lors, elle n'a besoin de rien, et Christ est mis de côté. Ce sont les tristes traits du dernier état de l'Église, et on ne les voit déjà que trop apparaître. Mais quelle illusion! Le Seigneur déchire ce voile trompeur d'orgueil et de propre satisfaction, et met à nu le réel état de l'Église. « tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux, et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Voilà toutes les hautes prétentions anéanties, et ceux qui se vantaient de leurs richesses, vus du Seigneur comme des misérables manquant de tout. C'est que rien de ce que l'on a acquis par soi-même, et par des ressources humaines, ne peut enrichir, couvrir et éclairer l'âme devant Dieu. Aussi le Seigneur, dans sa grâce, montre-t-il le seul et unique remède à cet état déplorable. C'est en lui qu'il se trouve. « Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. L'or passé au feu est ainsi éprouvé, parfaitement pur, et la justice de Dieu en Christ, qui met de côté notre propre justice. Les vêtements blancs sont la justice pratique, la sainteté dans la marche, et cela découle aussi de Christ seul. Et enfin, le collyre qui fait voir, c'est le Saint-Esprit qui seul donne la vraie intelligence des choses de Dieu. C'est de Christ qu'on acquiert ces choses, en lui qu'on les possède et qu'on en jouit. Et voilà ce qui le rend si précieux pour le cœur. La tiédeur alors disparaît. On les achète? À quel prix? Au prix du renoncement à toutes les fausses richesses dont on se vantait. L'Église est ainsi rappelée au sentiment de sa responsabilité. Le Seigneur ajoute, pour le lui faire sentir et lui montrer son amour, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Et donc du zèle et repens-toi. Les paroles sévères qu'il a adressées à l'Église sont une preuve qu'il l'aime et qu'il voudrait l'arracher de la voie fatale dont la fin pour elle sera d'être vomie de la bouche du Seigneur. La repentance lui est ouverte. Quelle tendresse et quelle patience dans le cœur de Jésus. Et nous le voyons bien dans ce qui suit. L'indifférence et la tiédeur ne lui ont pas laissé de place dedans. Il est dehors. Que fera-t-il? S'en ira-t-il? Non. Il aura encore patience. Peut-être que, dans cette église qui va être vomie de sa bouche, il y a quelque cœur qui répondra encore à sa voix. « Voici, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. » Quelle place pour le Sauveur! Être à la porte et solliciter l'entrée, non pas chez un pécheur incrédule, sans connaissance, mais à la porte de cette assemblée, autrefois si zélée pour lui, et maintenant satisfaite d'elle-même, et par là l'ayant exclue. Oui, comme autrefois il s'est abaissé pour servir, maintenant il s'abaisse pour frapper à la porte, dans l'espoir qu'au moins une âme entendra et le recevra. Quelle est heureuse celle dont la voix de Jésus atteint les oreilles. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Il jouit ainsi de la communion avec Jésus, de l'intimité, de la joie de son amour. Oh, puissions-nous connaître cette joie, ce bonheur. Écoutons cette voix pénétrante du Sauveur. Ce qu'il désire, c'est d'entrer pour être avec nous, et nous tout près de lui. Le vainqueur régnera avec Christ. On est associé de cœur avec lui ici-bas, on sera là-haut avec lui dans la gloire. Nous avons terminé ce que la parole nous dit prophétiquement touchant l'Église ou l'Assemblée. Depuis ce moment, il n'en est plus question dans l'Apocalypse, comme vu sur la terre. Mais à la fin du livre, l'Église, composée de tous les vrais croyants, de tous ceux qui ont vaincu depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à la venue de Christ, est vue dans la gloire céleste, quand les noces de l'agneau avec elle, son épouse, sont célébrées au chant de triomphe et d'allégresse du ciel. Apocalypse 19, versets 6 à 9.
Et jouit comme une voix d'une foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin éclatant et pur. car le fin lin, ce sont les justices des saints. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau.
Hommage à toi, chef de l'Église, l'épouse, objet de ta faveur, à tes côtés bientôt assise, sans fin bénira son Seigneur. Ô saint transport, joie ineffable, nous jouirons de ta beauté et de l'amour inexprimable qui remplira l'éternité. La fin du premier siècle. Nous avons terminé ce que l'Esprit de Dieu nous présente prophétiquement dans l'Apocalypse relativement à l'Église du Seigneur sur la terre. Son histoire, en dehors de cela, doit être tirée de documents humains sujets à l'erreur. Il faudrait beaucoup de volumes pour raconter tout ce qui concerne ce qui porte le nom d'Église chrétienne. Et ce récit renfermerait bien des choses tristes et douloureuses, car l'Église s'est complètement détournée des pensées de Christ, et ce déclin a commencé dès les jours apostoliques. Elle est devenue ce champ où l'ivraie croît en abondance, le grand arbre qui abrite sous ses branches toutes sortes d'oiseaux, la pâte imprégnée de levain, Matthieu 13. Mais au milieu de tout ce mal qui a envahi l'Église, Dieu n'a pas cessé à toutes les époques d'y avoir ses fidèles témoins. Les premiers furent ceux que l'on nomme plus spécialement martyrs ou témoins par excellence. Ils scellèrent de leur sang leur foi au Seigneur et appartiennent à la période, figurée par l'assemblée de Smyrne. L'exemple de leur foi, de leur constance dans les tourments, est bien propre à encourager. C'est en même temps un témoignage puissant rendu à la vérité. Pour eux, Christ était une personne vivante, qui avaient souffert pour leur salut, et ils donnaient leur vie pour lui. Ils n'avaient peut-être pas une aussi grande connaissance des vérités de l'Écriture que nous, mais ils connaissaient assez de l'amour de Christ pour n'être ébranlés ni par promesses, ni par menaces, ni par torture. Puissions-nous, dans nos temps moins difficiles en un sens, avoir un peu de cet amour qui nous fera nous séparer du monde et vivre plus entièrement pour celui qui nous a aimés. On a dit « croire et souffrir et non pas écrire » était ce qui caractérisait les premiers chrétiens. Nous n'avons donc que peu de récits datant de ces temps pour nous dire ce qu'ils endurèrent. Nous avons parlé de la persécution qui eut lieu sous Néron, mais c'est un historien païen qui la rapporte. On peut d'ailleurs aisément se rendre compte de ce qui appelait sur eux l'attention publique et la haine du monde. Les petits groupes de disciples de Christ, dispersés çà et là dans l'Empire romain, s'y trouvaient littéralement comme des brebis au milieu des loups. Leur croyance n'était celle d'aucune nation, leur culte n'était pas compté parmi ceux que Rome tolérait, de sorte que leur sécurité était le silence et l'obscurité. Mais la foi dans le cœur est un principe vivant et actif qui ne peut rester ignoré. La religion chrétienne devint agressive à cause de la puissance de vie qui était en elle et qui la faisait tellement différer des religions mortes du paganisme. Elle devint bientôt importune par le fait même qu'elle se tenait à part des diverses formes de culte qui toutes se distinguaient par une pompe extérieure. Les règnes de Vespasien et de Titus, celui qui prit et renversa Jérusalem, semble avoir été un temps de repos pour l'Église. Il en fut autrement sous leur successeur Domitien, prince lâche, soupçonneux et cruel. Elle eut alors à subir une violente persécution qui dura une année. Le bruit était venu aux oreilles de Domitien qu'un personnage de la race de David devait paraître, auquel appartiendrait l'empire du monde. Confondant les chrétiens avec les juifs, l'empereur se mit à persécuter cruellement les premiers. Il n'épargna même pas les Romains des plus nobles familles, dès qu'ils lui étaient signalés comme chrétiens, les faisant mettre à mort ou les envoyant en exil, après avoir confisqué leurs biens. Il bannit plusieurs membres de sa propre famille et fit même mourir son cousin Flavius Clément, dont la femme Flavia Domitia sa propre nièce, fut envoyée en exil. Leur crime était d'avoir embrassé l'Évangile. Nous voyons cependant par là qu'en dépit de tous les efforts de la puissance impériale, malgré le fer et le feu, le christianisme ne s'était pas seulement répandu dans les classes inférieures de la société, mais se trouvait jusque sur les marches du trône. C'est à cette époque que l'apôtre Jean, le seul survivant des 12 apôtres, fut exilé dans l'île sauvage de Patmos, où le Seigneur fit passer devant son esprit les visions de gloire et de jugement qu'il décrit dans l'Apocalypse. La persécution sous Domitien fut des plus cruelles, mais ne dura pas longtemps. Avant de périr assassiné, il avait permis à ceux qui avaient été exilés à cause de leur foi de rentrer dans leur foyer. Mais ce qui laissait subsister le danger pour les chrétiens dans ces premiers temps, c'est qu'on les confondait avec les juifs toujours prêts à se soulever. Voici, à ce sujet, un fait qui nous est raconté. Domitien, dont l'esprit soupçonneux était toujours en éveil, avait entendu dire qu'en Judée vivaient encore des descendants de David, parents de Christ. Craignant qu'ils ne revendiquassent un jour la royauté, il donna l'ordre de les saisir et de les amener à Rome. C'étaient deux petits-fils de Jude, le frère du Seigneur. Ils furent conduits devant l'empereur qui les interrogea. Ils ne firent aucune difficulté pour reconnaître qu'ils étaient descendants de David et parents de Christ. Domitien leur demanda alors quelles étaient leurs possessions et leurs biens. Ils répondirent qu'ils n'avaient que quelques arpents de terre qu'ils cultivaient et dont le produit leur servait à payer les impôts et à se nourrir. Là-dessus, l'empereur ordonna qu'on examinât leurs mains, qui, en effet, étaient rudes et calleuses, comme celles des gens qui travaillent la terre. Interrogés touchant le règne de Christ, quand et où il devait apparaître, ils répondirent que ce règne n'était pas de ce monde, mais qu'il était céleste et spirituel, et ne serait établi qu'à la fin du monde. Voyant que c'étaient des gens pauvres et inoffensifs, complètement rassurés d'ailleurs par leur réponse, Domitien les laissa aller, et pendant un temps cessa de persécuter les chrétiens. C'est à la fin de son règne que la persécution redoubla de fureur. Nerva succéda à Domitien. Durant les 2 années de son règne, les chrétiens furent en paix. Il rappela les bannis, leur rendit leurs biens, et même ordonna que les esclaves qui avaient trahi leur maître chrétien fussent mis à mort. Mais le christianisme restait toujours une religion non reconnue par l'État. Les chrétiens pouvaient parfois jouir d'un temps de répit, mais les lois ne les protégeaient pas. Il n'y avait pour eux aucun recours s'il plaisait à quelque gouverneur de les poursuivre, ou si, pour une cause ou une autre, la populace se soulevait contre eux. Au court règne de Nerva succéda l'an 98 celui de Trajan qui dura 19 ans et dont nous reparlerons. C'est vers le commencement de ce règne que mourut l'apôtre Jean. Les écrits chrétiens de cette époque sont très rares. Je mentionnerai les deux plus remarquables. L'un est la lettre que Clément écrivit aux Corinthiens. Plusieurs pensent que ce Clément est celui dont Paul parle comme étant un de ses compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie, Philippiens 4, verset 3. Sa lettre aux Corinthiens était motivée par les dissensions survenues dans cette assemblée. Il rappelle l'état de choses qui y existait plusieurs années auparavant, quand Paul leur écrivit ces 2 épîtres, et constate avec douleur que leur condition était pire que lorsque l'apôtre s'adressait à eux. Il les exhorte donc et les supplie de se repentir et de revenir à la paix et à la concorde. Dans une autre partie de sa lettre, il place devant les fidèles les fondements de leur commune foi en ces termes. Regardons constamment, bien-aimés, au sang de Christ. Considérons combien est précieux pour Dieu ce sang qui a été versé pour notre salut, et qui place la grâce de la repentance devant le monde entier. Nous ne sommes pas justifiés par nous-mêmes, par notre sagesse, notre intelligence, notre piété, ou par des œuvres que nous aurions accomplies en sainteté de cœur, mais par la foi. C'est par elle que, dès le commencement, le Dieu Tout-Puissant a justifié les hommes. Il est intéressant de savoir que ces paroles étaient lues, non seulement à Corinthe, mais dans toutes les assemblées des premiers chrétiens, de même que les écrits d'autres auteurs de cette époque. Mais nous devons ajouter qu'à côté de paroles saines, il se trouve, dans les écrits de ce temps, si rapprochés pourtant des apôtres, beaucoup d'erreurs, qui montrent combien l'on s'écartait de leurs purs et simples enseignements. Une profonde ligne de démarcation sépare les écrits inspirés de ceux des pères apostoliques, comme l'on nomme ces écrivains qui étaient les disciples immédiats des apôtres. Le second écrit est la lettre à Dioniette. Elle est adressée par un auteur inconnu à quelqu'un qui avait désiré être informé de la doctrine et de la manière de vivre des chrétiens, et date probablement de la fin du premier siècle. Dioniette avait posé, quant à cette nouvelle sorte d'homme, des questions telles que celles-ci. En quel Dieu mettent-ils leur confiance? Comment rendent-ils culte? Comment se fait-il qu'ils regardent le monde comme au-dessous d'eux, qu'ils méprisent la mort, ne tiennent aucun compte des dieux légalement reconnus comme tels par les Grecs, et ne suivent pas non plus la superstition juive? Que signifie cette affection qu'ils se portent l'un à l'autre? Comment se fait-il que cette nouvelle sorte d'homme et cette nouvelle manière de vivre soient entrées dans le courant du monde maintenant et non auparavant? L'écrivain répond: les chrétiens ne sont pas séparés des autres hommes par leur demeure terrestre, ni par leur langage ou leurs coutumes. Nulle part ils n'habitent des cités qui leur soient propres. Ils n'ont pas une autre manière de parler que ceux qui les entourent, ni n'affectent une vie singulière. Ils demeurent dans les villes des Grecs et des barbares, selon que le lot leur a été assigné. Mais tout en se conformant aux usages des pays par rapport aux vêtements, à la nourriture et aux autres choses qui appartiennent à la vie extérieure, ils montrent cependant dans leur conduite quelque chose qui semble étrange à tous. Ils habitent leur contrée natale, mais comme étrangers. Ils prennent leur part de toutes les charges comme citoyens, et cependant endurent toutes sortes de torts comme s'ils étaient gens de dehors. Toute terre étrangère leur est une patrie, et la patrie de chacun d'eux lui est comme un sol étranger. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils séjournent sur la terre, mais leur bourgeoisie est dans le ciel. Ils obéissent aux lois, mais sont au-dessus des lois par leur vie. Ils aiment tous les hommes et sont persécutés par tous. Ils sont inconnus et cependant faits vivants. Ils sont pauvres et en enrichissent plusieurs, blasphémés et cependant justifiés. On les couvre d'opprobre et eux bénissent. Touchant la religion des chrétiens, voici ce que dit notre auteur. Leur religion ne leur a pas été donnée comme une invention terrestre. Ils n'y ont pas été initiés par le canal de mystères humains. Le Dieu Tout-Puissant, qui a créé toutes choses, le Dieu invisible lui-même a inauguré du ciel parmi les hommes la vérité, la sainte et insondable parole, et l'a fixé fermement dans leur cœur. Et ce n'a pas été, comme on pourrait se l'imaginer, en envoyant quelque être subordonné, un prince ou un ange, mais celui qui est l'architecte et le créateur de toutes choses. Un fils des hommes aurait dit que, dans ce cas, c'était pour frapper de terreur et dominer par le jugement. Mais non, il est venu en douceur et en débonnaireté. Dieu l'a envoyé pour sauver, pour persuader les hommes et non les contraindre, car en Dieu il n'y a pas de contrainte. Il l'a envoyé en amour et non en jugement. Il a donné lui-même son propre Fils en rançon pour nous, le saint pour les iniques, l'innocent pour les coupables, le juste pour les injustes. Ô doux et précieux échange, œuvre qui passe toute conception, bienfaits au-delà de toute attente. L'iniquité de plusieurs est cachée dans une seule personne juste, et la justice d'un seul justifie plusieurs iniques. On est heureux de lire de telles paroles qui sont encore un reflet de ce que nous trouvons dans les saints écrits des apôtres.